Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 12 avril. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, et au cours de cette émission, le journal, les sports et un retour sur le premier tour de la présidentielle en France. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce mardi 12 avril, deuxième jour de la campagne électorale en Australie. Le Premier ministre et le chef de l'opposition sont sur le terrain avec des promesses de créer des emplois et des soutiens en matière de santé mentale. L'Australie enquête sur des rapports sur l'utilisation d'armes chimiques par la Russie contre l'Ukraine. Le Victoria annoncé comme organisateur des Jeux du Commonwealth de 2026. La campagne électorale en Australie, le Premier ministre Scott Morrison promet de créer 1,3 million d'emplois au cours des 5 prochaines années dans le cadre de sa campagne officielle pour les prochaines élections fédérales. Le Premier ministre tente de persuader les électeurs en soulignant le bilan économique de la coalition, notant que 1,9 million d'emplois ont été créés depuis son arrivée au gouvernement en 2013. L'engagement de Scott Morrison sera soutenu par des investissements dans les secteurs des infrastructures, de la fabrication, du numérique, afin de créer davantage d'opportunités pour les travailleurs. Il a déclaré sur Radio 5AA à Adélaïde que ce financement était un investissement dans la formation professionnelle des Australiens.
I mean, we've got 220,000 trade apprentices in training right now across the country. That is the highest level we've seen since 1963. And a key part of the plan that we've outlined very clearly is the investment, further investment we're making in skills, $3.7 billion to support an 800,000 new training position.
Le Parti travailliste a promis un plan de santé mentale de plusieurs millions de dollars pour les Australiens qui vivent dans les régions rurales afin de rendre les consultations psychiatriques de télésanté moins chères. Anthony Albanese a fait l'annonce de 31 millions de dollars lors d'une conférence de presse ce matin en Tasmanie.
This is so important. During the pandemic, we've seen real pressure on people's mental health in particular. And we had this loading put in place, but then it was removed by the Morrison government. We need to make sure that you have access to services wherever you live. Telehealth can be so important, and that's why today's announcement is critical. We expect that some 450,000 consultations will take place over the next 4 years as a result of this announcement.
Les Verts recherchent un soutien politique crucial dans le Queensland, le parti espérant pouvoir convaincre les électeurs de l'État avant les élections fédérales. Le parti qualifie le Queensland de « swing state », arguant que les votes pourraient déterminer la balance du pouvoir au Sénat. Le chef des Verts, Adam Bent, a déclaré que Scott Morrison ne devrait pas être réélu et qu'il soutenait Anthony Albanese du Parti travailliste en tant que premier ministre alternatif. Il déclare aussi qu'il se prépare à une élection serrée le mois prochain. Les Australiens pourront toujours voter le jour des élections s'ils sont en isolation à cause du COVID-19 en tant que cas confirmé ou contact étroit. La Commission électorale australienne a confirmé qu'elle déploierait un système de vote par téléphone pour les personnes en confinement le 21 mai prochain. Elle indique aussi que les électeurs qui manquent les options de voter avant le jour du scrutin ou de voter par correspondance devront faire une déclaration indiquant qu'ils sont soumis à une règle sanitaire de confinement à cause de la pandémie du COVID-19. En France maintenant, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a passé la journée de lundi dans les Hauts-de-France. Il était à demain. Reportage de Anthony Latier pour RFI.
Des Macron présidents et un peu plus loin, quelques slogans hostiles. Le président candidat rapidement interpellé sur le score élevé de Marine Le Pen dans la région.
On n'a pas apporté des réponses à ces millions de Français et de Français qui s'interrogent, qui se posent des questions au quotidien, qui ont peur.
Interpellé aussi à plusieurs reprises sur son projet de réforme des retraites.
Quand je vois que vous faites une loi que les gens doivent travailler jusqu'à 65 ans, à pâtre, à maçon, il lui faudra un déambulateur pour travailler. Vous ne savez pas ce que c'est un ouvrier. Donc on en est malade de votre réforme.
Emmanuel Macron tente de rassurer. Travailler plus, oui, mais pour mieux redistribuer.
Le niveau des retraites, moi je regardais aussi le programme de Mme Le Pen, elle ne permet pas de l'augmenter. Aujourd'hui, notre système n'est pas financé. Donc moi je veux pouvoir mettre les retraites minimum de ceux qui ont une carrière complète à 1100 euros, réindexer les pensions dès cet été. Et puis, ceux qui ont des métiers pénibles, on doit leur donner des avantages, ils doivent partir plus tôt.
Le président candidat insiste sur la dimension sociale de son projet, clin d'œil aux électeurs de gauche dont il ne pourra pas se passer au second tour. C'est pour cela qu'Emmanuel Macron se dit prêt à compléter et enrichir son projet.
Et Marine Le Pen, arrivée deuxième du premier tour de cette élection présidentielle, était hier à Soucy dans l'Yonne. Julien Chavanne, RFI.
Je suis ravi.
Le lendemain des élections, c'est quand même un honneur pour nous.
Oui, mais c'est très important pour moi d'être là.
Le déplacement a été calé au dernier moment. Exit les salons dorés parisiens prévus au départ pour une réunion de l'état-major. Marine Le Pen marche dans la boue auprès d'un couple de céréaliers avec encore et toujours le sujet du pouvoir d'achat et de l'inflation.
On est face à un mur, là.
Oui.
Que le gouvernement cherche à atténuer parce qu'on est en période électorale. Mais sans dire ce qui nous attend le lendemain de l'élection. Et moi, je crois que le rôle d'un dirigeant, c'est de tenir un discours de vérité.
Voilà. Oui, mais on va se faire massacrer.
De prendre les mesures.
Pouvoir d'achat et ruralité, le diptyque de la campagne du premier tour, restera la ligne de conduite pour le second.
C'est un choix assumé. Je pense que les thèmes qui, aujourd'hui, sont des préoccupations des Français n'ont pas changé entre hier soir et aujourd'hui.
On va le faire tant qu'il est chaud, explique un proche de la candidate, bien décidée à surfer sur un sujet qui lui réussit jusqu'à présent. Son programme de campagne restera souple pour ne laisser aucun pouce de terrain à Emmanuel Macron.
La guerre en Ukraine, les responsables australiens cherchent à vérifier les informations faisant état de l'utilisation d'armes chimiques par la Russie en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a condamné les rapports des séparatistes appelant à l'utilisation de forces chimiques contre les troupes ukrainiennes défendant Mariupol. La ministre australienne des Affaires étrangères, Mary Spain, a déclaré que les autorités australiennes travaillaient avec leur homologue pour déterminer la véracité des informations.
There are extremely concerning reports out of Ukraine this morning in relation to the use of chemical weapons by Russia. If they are confirmed, that will be a further wholesale breach of international law, a further indication of President Putin and Russia's absolute violation of every single value and every single rules-based aspect of the rules-based global order, which has stood us in such good stead for so many decades now.
Le département américain de la défense estime que la Russie se prépare également à une offensive d'envergure dans le Donbass. Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré que la Russie déplaçait davantage de troupes et de matériel vers la région, tandis qu'un autre responsable a déclaré que les Russes y concentraient bon nombre de leurs frappes de missiles. La Russie a nommé un général chevronné pour diriger sa nouvelle offensive dans la région orientale du Donbass, où les séparatistes soutenus par Moscou combattent les troupes ukrainiennes depuis 2014 et ont déclaré des États indépendants. Cependant, John Kirby a déclaré que la présence de véhicules blindés et d'artillerie russe suggérait des efforts accrus dans la région.
I wouldn't pretend to say that we know for certain that this new general is going to be the author of some new additional and more bloody tactics, but we can certainly say by what we've seen in the past that we're probably turning another page in the same book of Russian brutality.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a plaidé pour plus d'aide des pays occidentaux pour lutter contre les Russes. Je vous propose ce focus sur Mariupol avec ce reportage de Franck Alexandre pour RFI.
Alors que la ville est sur le point de tomber, les derniers fantassins de la 36e brigade de la marine nationale ukrainienne communiquent sur leur compte Facebook. « Ce sera la mort pour certains d'entre nous et la captivité pour les autres », écrivent-ils, ajoutant « Nous sommes en train de disparaître lentement. Plus de la moitié d'entre eux seraient blessés ». Ces soldats sont retranchés dans l'immense complexe sidérurgique Azovstal, situé à proximité du port. Au cœur de cette usine, des souterrains très profonds leur ont permis de résister jusque-là au bombardement. Pendant plus d'un mois, disent-ils, nous avons combattu sans réapprovisionnement en munitions, sans nourriture, sans eau, faisant le possible et l'impossible. L'issue est désormais inéluctable et les combattants le savent et le disent. L'ennemi nous a progressivement repoussés, encerclés et tente maintenant de nous détruire. Après plus de 40 jours d'une lutte féroce et avec le peu de munitions qu'il reste, les derniers défenseurs de Mariupol s'apprête à livrer une ultime bataille dans le port dévasté de la mer d'Azov.
Les Nations Unies sont au courant d'un nombre croissant de récits d'agressions sexuelles en Ukraine. Cela survient alors qu'un groupe de défense des droits de l'homme accuse les troupes russes d'utiliser le viol comme arme de guerre. Katerina Cherepaka, présidente de la Strada Ukraine, a déclaré au Conseil des Nations Unies que les lignes d'urgence de son organisation avaient reçu des appels accusant des soldats russes de 9 cas de viol impliquant 12 femmes et des filles. Sima Bahous, directrice de UN Women, affirme que le risque de traite des êtres humains augmente également, les jeunes femmes et les adolescentes non accompagnées étant particulièrement exposées.
We are increasingly hearing of rape and sexual violence. These allegations must be independently investigated to ensure justice and accountability. The combination of mass displacement with the large presence of conscripts and mercenaries and the brutality displayed against Ukrainian civilians has raised all red flags.
Le Premier ministre Sri Lankais Mahinda Rajapaksa a appelé à la fin des manifestations appelant à la démission du gouvernement en raison de la crise économique du pays. Les manifestants ont occupé l'entrée du bureau du président pour une troisième journée. Cela survient alors que le pays est au bord de la faillite. Les Sri Lankais devant faire la queue pour acheter du carburant, du gaz de cuisine, de la nourriture et des médicaments. Dans un discours télévisé, le Premier ministre a attribué les turbulences économiques du pays à la pandémie de coronavirus.
I'm sure now that you're very aware of the deep economic crisis that's befallen our country following the battle we fought to keep our citizens safe from the coronavirus pandemic. Although we ensured the safety of the lives of the people from the pandemic, we were unable to avoid falling into this economic abyss.
Au Pakistan, les députés du parti politique de l'ancien Premier ministre déchu, Imran Khan, ont démissionné en masse de la chambre basse du Parlement. Shehbaz Sharif est le nouveau Premier ministre du pays. Le dirigeant du parti Tehrik-e-Insaf, Shah Mahmoud Qureshi, a déclaré que les membres du parti de Imran Khan n'avaient pas reconnu l'élection de Sharif comme légitime.
With the consultation of our leader Imran Khan, we colleagues of the Tehrik-e-Insaf party decided not to participate in this unjustified election process and are announcing a resignation from the National Assembly seats.
Et on passe à ce reportage de Sonia Ghezali sur place pour RFI.
Kamel a une trentaine d'années, il voit l'arrivée au pouvoir de Shehbaz Sharif avec amertume.
Je suis triste, je pleure sur le sort de mon pays libre. Un pays libre et indépendant ne devrait pas avoir un corrompu comme lui à sa tête. Je ne suis pas content.
Un homme sur sa mobylette nous interpelle.
Imran Khan était un chef courageux et c'est pour ça qu'il a été renversé, et c'est pour ça qu'ils l'ont chassé du pouvoir. Les gens corrompus finissent toujours par revenir au pouvoir.
Rezwan Kader est fonctionnaire, il dit n'avoir plus d'espoir.
Je pense qu'aucun Premier ministre ne peut faire quoi que ce soit pour faire baisser les prix à la consommation. Il n'y a que le visage qui change au pouvoir ici.
Frida Bibi attend son bus sous la chaleur, chétive. Elle explique qu'elle peine chaque mois à joindre les deux bouts.
Tous ceux qui arrivent au pouvoir ne pensent qu'à eux-mêmes. Personne ne pense aux pauvres. Imran Khan avait dit qu'il allait donner du travail aux gens, qu'il allait faire construire des maisons pour les pauvres, et il n'a rien fait. Et maintenant, ces personnes de l'opposition viennent au pouvoir, et elles aussi ne feront rien pour les pauvres.
Certains craignent aussi que le pays ne plonge un peu plus dans l'instabilité. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI.
Un mot de sport, le Victoria organisera les Jeux du Commonwealth de 2026. L'événement devant se dérouler principalement dans les régions rurales. La décision de la Fédération des Jeux du Commonwealth marque la première fois en 92 ans qu'un État ou une région se voit proposer de se positionner à la place d'une ville hôte. Le Victoria était un grand favori après que l'État ait participé à des négociations exclusives avec l'instance dirigeante en février dernier. Le chef de l'État, Daniel Andrews, a déclaré que les principaux centres des événements seront à Bendigo, Ballarat, Geelong et dans le Gippsland.
So this is a great vote of confidence in regional Victoria. It's a showcase of all that we do so well. It's about jobs. It's about setting our state up for the future. We know that when regional Victoria is doing well, Victoria is doing well. This is very, very exciting. A games like no other.
Et on passe à la météo pour ce mardi en Australie, à Perth, il fera 25 degrés, Adélaïde 25 également, Melbourne 18, Hobart 19, Canberra 19, Sydney 22, Brisbane 30, Cairns 31, Darwin 34 et à Alice Springs maximal de 36 degrés. Un rappel des grands titres de ce 12 avril, deuxième jour de la campagne électorale en Australie. Le Premier ministre et le chef de l'opposition sont sur le terrain avec des promesses de créer des emplois et des soutiens en matière de santé mentale. L'Australie enquête sur des rapports sur l'utilisation d'armes chimiques par la Russie contre l'Ukraine. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Journal des sports, et on commence avec bien du football et la Ligue 1 en France et la victoire de Marseille ce dimanche, ce week-end, dans la journée de championnat. Maria Mélimotte.
Très belle opération des Marseillais, victoire 2-0 contre Montpellier, plié au bout de 20 minutes. Le Sénégalais Bemba Dieng a ouvert le score dès la 9e et Tchengiz Under a doublé la mise sur pénalty 10 minutes plus tard. Match très abouti des hommes de Jorge Sampaoli qui reprennent la deuxième place à Rennes. 3 points d'avance sur les Bretons, 11 de retard sur le leader parisien et l'OM a donc idéalement préparé le classique de dimanche prochain au Parc des Princes, sans oublier, attention, la Ligue Europa Conférence et cette place en demi-finale à aller chercher jeudi face au PAOK Athènes. On écoute tout de suite la réaction du milieu marseillais, Matteo Guendouzi.
Je pense que ce soir, voilà, la victoire a été très bien maîtrisée. Je trouve qu'on a fait vraiment une excellente première mi-temps. Deuxième mi-temps aussi, on a su garder le ballon et rester solide derrière. On est sur une très bonne dynamique, on fait vraiment de très bons matchs en ce moment. Et on l'a vu ce soir, on sera prêt pour le sprint final. On a un match à jouer jeudi qui va être très difficile en Grèce, on le sait. On y va là-bas pour se qualifier, donc ça va être un match très difficile. Et après, voilà, on va aller au pas. Ça va être un match très important pour nous aussi parce qu'on est sur une très bonne dynamique et on ne veut pas s'arrêter là. Donc voilà, d'abord se concentrer sur jeudi, bien récupérer et on sera prêt dimanche.
Voilà donc pour Marseille et ce championnat de Ligue 1. Et retour eh bien, sur les autres matchs, notamment Nice qui a été battu ce week-end. Nice qui est en mauvais passe, Marie-Amélie Motte.
Défaite 3-0 grâce à un doublé d'Arnaud Kalimuendo et un but de l'international malien Tchèque Doucouré. Son compatriote Massadio Aïdara a lui été expulsé dès la 17e minute après une semelle sur le genou de Youssef Attal. Match très tendu entre Lens et Nice, beaucoup de fautes. Et les Aiglons ont d'ailleurs terminé à 9 après les expulsions du Gabonais Mario Lemina et du capitaine brésilien Dante. Très mauvaise opération de Nice qui reste englué à la 5e place et qui voit Strasbourg lui prendre un point. Le Racing qui a fait match nul un partout tout à l'heure contre Lyon après avoir longtemps mené. Mais l'international camerounais Karl Toko Ekambi a marqué en toute fin de match pour arracher le nul. Lyon 10e au classement ce soir à 5 points des places européennes.
Voilà donc pour le football en France, direction l'Angleterre maintenant. Les résultats de Première Ligue et notamment eh bien, ce match entre Manchester City et Liverpool. Philippe Auclair.
La première chose, c'est qu'on a assisté à un match qui a tenu absolument toutes ses promesses. Comme généralement, ces rencontres entre ces deux équipes le font, on a compris pourquoi ces deux équipes sont à des années-lumière, j'allais dire, devant le reste du championnat d'Angleterre. Confirmation de l'énorme qualité de ces deux équipes. Et un match assez particulier, Thomas, dans la mesure où, très franchement, quand on est arrivé à 2-1 à la mi-temps, on estimait que Liverpool s'en tirait très, très, très bien. L'ouverture du score dès la première, 6e minute par Kevin De Bruyne. Une égalisation un petit peu contre le cours du jeu de Diogo Jota sur un superbe mouvement au passage. Mais encore une fois, Liverpool paraissait vraiment s'accrocher dans cette rencontre. Gabriel Jesus qui donne l'avantage à Manchester City de 2-1. Et puis un Liverpool complètement transformé en seconde période. C'est une confirmation un petit peu de ce que l'on pense de ces deux équipes, à savoir qu'elles ont non seulement les ressources techniques, tactiques bien évidemment, entre ces deux grands entraîneurs. Ce qui d'ailleurs fait que cette rencontre est un petit peu à part, dans la mesure où il n'y a pas l'animosité qu'il y a dans d'autres derbys de ce type. Le match a été assez enlevé et assez envoyé par moments, avec des tacles qui étaient bien arrivés à destination, mais il y a ce respect entre les deux. Et quand on voit ce score final de partout, encore une fois, en Angleterre, on dit que c'est ce qu'il y a entre ce qui sépare ces deux équipes, c'est un papier à cigarette.
Philippe Auclair, le football, on y revient dans quelques instants, mais avant ça, on va parler de cyclisme. Ce week-end, c'était la course de l'Amstel Gold Race, course que vous avez pu suivre à l'antenne d'SBS, hein, course féminine et masculine. Et une victoire incroyable dans la course masculine, celle de Michael Kwiatkowski. 7 ans après sa dernière victoire, le Polonais eh bien, remporte l'Amstel Gold Race. Et il la remporte d'à peu près la grandeur d'un pneu sur le Français Benoît Cosnefroy. Une arrivée au finish, photo finish, qui aura donné la victoire aux Français avant de la rendre aux Polonais quelques minutes après. On écoute Michael Kwiatkowski.
A lot of luck, I would say. It was a very tough finish, tough sprint, and you know, I was super confident that I can win, but on the same time, you know, the last 50 meters was super tough. You know, I think Cosnefroy still accelerate when I start to, you know, go on the side of him, and for me it was all about the win, because after all the, you know, bad moments this season I had with COVID and previously with flu and being sick, not being able to follow my race program, and now I'm here, winner of Amstel Gold Race. That's just incredible feeling.
Voilà donc Michael Kwiatkowski, le vainqueur de l'Amstel Gold Race. Prochaine étape pour le cyclisme, c'est le mythique Paris-Roubaix que vous pourrez suivre tout ce week-end à l'antenne d'SBS, samedi pour la course du Paris-Roubaix femmes et dimanche sur la course du Paris-Roubaix hommes. Allez, direction le basket maintenant et point et coup de projecteur sur Joël Embiid, le meilleur joueur camerounais de la NBA, Alexis Guilleux.
Une 50e victoire pour Philadelphie hier soir et un nouveau match d'exception pour Joel Embiid. 41 points, 20 rebonds, des performances XXL répétées tout au long de la saison. Et pourtant, ce ne sera peut-être pas suffisant pour le pivot camerounais, pas assuré de remporter le titre de MVP. La concurrence est rude en NBA et Joel Embiid a parfois du mal à l'accepter.
Si je gagne, c'est super, mais si je ne reçois pas le trophée, je ne sais pas quoi faire de plus. J'aurai l'impression qu'à Philadelphie, il faut toujours en faire davantage. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un sentiment que j'ai toujours eu, tu dois en faire plus que les autres.
Troisième choix de la draft 2014, le natif de Yaoundé est le visage de la reconstruction des Sixers. Il s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs pivots de la ligue. Le journaliste Austin Krell pointe le travail payant effectué par Embiid cette saison pour se débarrasser des blessures à répétition.
Je crois qu'il a pris un engagement pour être en forme. Il a fait plus attention pour prendre soin de son corps et en conséquence, il a élargi un peu plus sa palette de jeu. Il a appris à jouer un match complet plutôt que de n'être qu'un attaquant dominant comme il l'était auparavant.
Et le résultat est sans appel. Joel Embiid sera le meilleur marqueur de la saison avec plus de 30 points de moyenne par match, performance inédite pour un pivot depuis 4 décennies. Un argument de plus dans sa besace en vue du titre de meilleur joueur. Joel Embiid peut aussi compter sur le soutien de son nouveau coéquipier, James Harden, MVP en 2018. Le parquet, Joel Embiid donne souvent l'impression d'être plus grand, plus rapide, plus technique que ses adversaires. Un athlète complet à l'image de la nouvelle génération de joueurs intérieurs, Austin Krell. Une popularité qui ne se limite pas à Philadelphie, le personnage Embiid séduit un peu partout aux États-Unis, mais pour le titre de MVP, les avis sont partagés chez les amateurs de basket. C'est une course à trois entre Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic. Là d'une récompense individuelle, Joel Embiid et les Sixers lorgnent aussi sur le titre NBA, mais pour cela, il faudra sortir d'une conférence Est dont les playoffs s'annoncent aussi serrés que passionnants.
Voilà donc pour le basket. Et je vous l'avais dit, retour sur le football, mais cette nouvelle fois sur le terrain politique. Didier Drogba, l'Ivoirien, légende du football ivoirien. Eh bien, Didier Drogba est candidat à la présidence de la Côte d'Ivoire, Martin Guez.
En lunettes de soleil et en chemisette, Didier Drogba apparaît serein devant une foule en délire que le candidat lui-même filmait depuis la fenêtre de sa voiture, l'emmenant au siège de la Fédération ivoirienne à Abidjan. Après plusieurs reports, l'élection va enfin pouvoir se tenir et alors que le poste de président de la FIFA est vacant depuis le départ en 2020 d'Augustin Sidi Diallo, décédé depuis, l'ancien éléphant Didier Drogba s'avance lui à pas de sénateur, acclamé par le public pour prendre la parole.
Aujourd'hui, qui ont posé leur candidature, la plus belle illustration est ce jeune ici avec cette pancarte.
À ses côtés, un jeune supporter tient dans ses mains une pancarte sommaire avec pour simple inscription à la craie « Le football, c'est le public et le public veut Didier Drogba ». Une façon pour l'ancien buteur de s'affirmer une fois de plus comme l'homme du peuple dans cette élection.
Cette candidature est la vôtre. Mon projet, notre projet est celui de la renaissance du football. Je suis sincèrement content et j'ai hâte que la campagne démarre officiellement. Je souhaite donc une bonne campagne à tout le monde et bonne chance à tous les candidats. Merci.
Un bain de foule bienvenu pour l'ancien joueur de Chelsea et de Marseille qui se termine même en musique.
Hey, c'est Drogba, on connaît. Hey, c'est Drogba, on connaît.
Drogba, on connaît la chanson, répondent le public et les footballeurs. Ils étaient une centaine d'entre eux à s'afficher en soutien mercredi à l'hôtel Bellecôte d'Abidjan. Mais la campagne de l'Abidjanais n'est pas une chanson douce, les présidents de clubs lui sont hostiles et lui reprochent de ne pas connaître le football local. Alors Drogba répond en s'adressant directement aux Ivoiriens dans une vidéo publiée cette semaine.
J'ai su mettre à profit mon parcours international puisque grâce à cela, j'ai gagné la confiance de nombreuses institutions et partenaires qui aujourd'hui sont prêts à me suivre dans cette belle aventure qui est celle de contribuer à l'essor du football ivoirien qui m'est si cher. Ce carnet d'adresses et cette notoriété au-delà des frontières, je voudrais humblement vous la mettre à disposition. Je suis le candidat de l'unité.
Voilà donc pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Allez, coup d'œil sur l'élection présidentielle et résultats du premier tour de l'élection présidentielle en France. Et on connaît maintenant les donc deux candidats pour le deuxième tour. Ce sera Emmanuel Macron, président sortant, et Marine Le Pen donc. Et on débute ce tour d'horizon eh bien, des commentaires et des résumés de ce premier tour avec Marine Le Pen. D'ailleurs, elle veut faire du second tour un référendum anti-Macron. Les explications de Julien Chavannes et Richard Rifone.
Emmanuel Macron reste en tête avec une avance confortable, mais l'essentiel est là. Marine Le Pen a une nouvelle chance de battre Emmanuel Macron et sa ligne de conduite est claire, tenter de rallier les opposants de droite et de gauche au président sortant.
Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement. Ensemble, nous allons construire avec enthousiasme et conviction cette victoire pour mettre en œuvre la grande alternance dont la France a besoin et conduire avec bonheur notre grand pays dans le troisième millénaire.
Le champagne cuvé Marine présidente coule à flot. Soir de fête pour le Rassemblement national qui revient de loin. La menace Zemmour n'est plus qu'un lointain souvenir.
Honnêtement, on est très contents. Notre camp a été très divisé par Éric Zemmour au tout début de la campagne. Et il y avait une dernière montée de Mélenchon récemment qui nous a fait peur. Mais on était relativement assez confiants. On avait des doutes, effectivement, mais globalement, ça a été. Les résultats donc, nous ont confirmé ce Marine au second tour. Donc pour nous, tout va bien.
Le plan de bataille jusqu'au 24 avril est déjà calé. Des réunions au QG ce lundi, un meeting par semaine, des déplacements commando décidés au dernier moment et du repos avant le débat de l'entre-deux tours. Marine Le Pen a retenu les leçons de 2017.
Voilà donc du côté de Marine Le Pen. Du côté du président candidat Emmanuel Macron, on appelle au rassemblement pour le second tour. Anthony Latier.
De la satisfaction, du soulagement aussi chez les militants à l'annonce des résultats, suivi dans la soirée par cette mise en garde d'Emmanuel Macron.
Car ne nous trompons pas, rien n'est joué. Et le débat que nous aurons dans les 15 jours à venir est décisif pour notre pays et pour l'Europe.
Le président candidat vire en tête, mais sans grande réserve de voix. Il tend donc la main à tous les électeurs. Pour ce militant, il est urgent de s'adresser à la gauche.
Maintenant, il faut aller vers la gauche. Et pour moi, la campagne doit aller vers la gauche pour récupérer ses fameuses voix. Et il y a eu trop d'ouvertures à droite qui, à mon avis, lui ont fait un petit peu défaut.
La stratégie d'Emmanuel Macron, démonter le projet politique de Marine Le Pen, comme l'explique la ministre Amélie de Montchalin.
C'est pas une question de diabolisation. Je ne suis pas en train de vous parler de morale, je suis en train d'essayer de vous dire que notre combat pendant les 15 prochains jours, c'est de montrer précisément que si ce programme était appliqué, il n'apporterait en fait aucune réponse aux questions que les Français se posent.
Convaincre les électeurs, convaincre les abstentionnistes, parce que les macronistes le disent, les appels au barrage ne suffisent plus.
Anthony Latier. Coup de projecteur également bien sur la remontée spectaculaire de Jean-Luc Mélenchon pour ce premier tour des présidentielles, crédité de 18% dans les sondages avant le vote. Il en aura obtenu presque 22% au final.
La lutte continue. La lutte continue. Nous disons à tous ceux qui jusque-là n'ont pas voulu l'entendre, ici est la force. Nous avons une stratégie, le pôle populaire. Nous avons un programme. Nous avons devant nous d'autres élections. Nous tiendrons à chaque étape notre rang. Réfléchissez-y. Alors, bien sûr, les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin. Hein. Faites mieux. Merci.
Et maintenant, l'analyse du premier tour. Tous les résultats donc, et ces analyses des enjeux et des tenants et aboutissants du premier tour avec Valérie Gasse.
Emmanuel Macron sort en tête du premier tour et c'était ça son objectif principal après une campagne à minima. Le président candidat avait besoin de devancer sa principale adversaire, Marine Le Pen, comme on vient de l'entendre. Emmanuel Macron reprend quelques points là où Valérie Pécresse, la candidate malheureuse des Républicains, en perd par rapport aux pronostics des sondages, laissant penser qu'une partie des électeurs de droite ont préféré donc voter utile en faveur du président sortant dès le premier tour. Même schéma du côté de Marine Le Pen qui récolte les voix perdues par Éric Zemmour, son challenger d'extrême droite, qui finit plus bas que prévu. Le troisième homme de cette élection, c'est donc Jean-Luc Mélenchon. La dynamique qui semblait le porter à la fin de la campagne se confirme. Lui aussi a profité du vote utile d'électeurs qui ont acté le fait que l'écologiste Yannick Jadot, comme la socialiste Anne Hidalgo, n'était pas dans le match. L'issue du scrutin le 24 avril prochain dépendra donc en grande partie du choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même a dit pas une voix pour Marine Le Pen, mais sans appeler à voter pour Emmanuel Macron.
Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour l'élection présidentielle en France. Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. On fait une courte pause en musique et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite.
Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french.
Et dans 36 secondes, je passe l'antenne à mon collègue Grégory Pless avec ce focus sur les récentes inondations à Lismore en Nouvelle-Galles du Sud. François Audouard, un résident qui habite la région depuis 7 ans, nous raconte ces événements.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, cela fait maintenant 3 jours qu'il pleut des cordes à Sydney. Pour la deuxième fois en moins d'un mois, plusieurs quartiers de la ville ont dû être évacués. Il y a des crues et des inondations qui ont conduit également à la fermeture de nombreuses routes, mais aussi d'écoles. Mais il faut reconnaître que par rapport à cette vague de crues et d'inondations, la situation de Sydney n'est peut-être pas aussi dramatique qu'une autre ville de Nouvelle-Galles du Sud, la ville de Lismore, au nord de cet état, qui pour le coup a été complètement submergée 2 fois également en moins d'un mois. Et pour en parler avec nous, nous avons un habitant de cette ville, un habitant d'origine française, François Audouard. Bonjour François.
Bonjour Grégory.
Alors, avant qu'on commence l'interview, vous m'aviez dit que Lismore, c'est une ville où vous vous êtes installé avec votre famille il y a 7 ans. Avant, vous viviez à Sydney.
Voilà, c'est correct. J'habitais à Sydney pendant 25 ans. Et puis, donc, on a décidé de partir, de vivre à la campagne et de venir ici.
La question que je voulais vous poser, 7 ans, ça fait déjà donc quand même pas mal de temps. On sait que Lismore est en grande partie située en zone inondable, en flood zone. Est-ce que, en 7 ans, il y avait déjà eu d'autres épisodes tels que ceux qu'on a connus ce mois dernier? Est-ce que vous aviez déjà eu affaire à des crues et à des inondations dans ce secteur?
Oui, tout à fait. En 2017, il y a eu un cyclone dans le Queensland et on a eu la queue du cyclone qui est tombée sur la région comme ça en une journée. Ça a bougé du nord du Queensland jusqu'à chez nous et ça a engagé beaucoup de pluie dans la région et ça a provoqué une inondation. C'était ma première expérience, notre première expérience d'une inondation à Lismore et on était plus ou moins préparés. Mais après cette expérience, on a pris des notes et on a préparé un plan de sauvetage pour la prochaine inondation.
Et donc celle-ci est arrivée il y a quelques semaines maintenant. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous aviez une cabane en haut d'une montagne où vous réfugiez pour rester à l'abri des eaux? Votre maison sur place à Lismore, quelle est l'étendue des dégâts? Est-ce qu'il y a vraiment eu de l'eau partout? Est-ce que vous allez devoir changer tout votre ameublement, tous vos équipements électroménagers? Comment personnellement vous avez été affecté par ces inondations?
D'abord, je voudrais préciser que notre maison, elle est sur pilotis. Donc, on est à 2 mètres du sol. Et donc, la première fois en 2017, l'eau est montée peut-être à 1,50 m en dessous, c'était à 50 cm du plancher. On a eu quelques pertes, choses qu'on avait en rangement dans le garage en bas. Mais à part ça, on a pu rester dans la maison. On a même dormi jusqu'au lendemain, jusqu'à ce que l'eau redescende, voilà. Donc on pensait qu'on était prêt pour d'autres inondations après cette fois-ci.
Vous me disiez que votre maison a été sur des pilotis de 2 mètres de haut. Est-ce que ces 2 mètres ont été suffisants cette fois-ci?
Non. Pour cette fois-ci, alors c'était vraiment un événement extraordinaire. Des trombes de pluie qui sont tombées pendant au moins 2 jours, mais le dernier jour, spécialement le dernier jour. Le bruit que ça faisait, on avait l'impression qu'on était au bord de la mer. C'était l'impression de bruit de vagues. Et c'est très fort, très puissant. Et nous, on se sentait rassurés dans la maison, mais on savait que dès qu'on allait sortir, ça allait être un problème. Pour vous dire le niveau, donc la dernière fois, c'était à 50 cm en dessous du plancher. Et cette fois-ci, c'est monté à 2 mètres du plancher. Donc, c'était au moins 2 mètres et demi de plus que la dernière fois. Alors, en général, ici, les inondations, ça se mesure en peut-être 10, 20, mais peut-être 50 cm de différence entre les uns et les autres. Et donc, cette fois-ci, c'était un record absolu. C'était un record qui n'a jamais été enregistré à Lismore. Et personne n'était préparé pour ça. Comme je vous ai expliqué, nous avions un plan pour inondation. Donc, nous avons tout monté sur la terrasse en haut, qui est donc aussi à 2 mètres du sol. Et donc, en bas, il n'y avait rien du tout. Et on pensait que l'eau allait seulement passer en dessous et que ça allait redescendre ensuite. Mais quand ça commençait à monter, on s'est rendu compte que ça allait pas s'arrêter et que ça allait continuer à monter et à monter.
Toutes ces plans, ces préparatifs que vous aviez mis en place en cas d'inondation, du coup, est-ce qu'ils ont été utiles face à ces inondations exceptionnelles ou malheureusement, il a fallu tout revoir et ça n'a pas permis de protéger aussi bien votre famille et vos biens que vous l'espériez?
Eh bien non, ça n'a rien fait. Ça nous a donné le sentiment de faire quelque chose sur le moment. Mais quand on est revenu dans la maison après que l'eau redescende, on s'est rendu compte des dégâts et en fin de compte, tout est passé sous l'eau, tout.
Comment ça s'est passé quand vous êtes rendu compte que ce n'était pas possible de rester chez vous et attendre que ça passe?
Il y a la police ou l'armée qui est passée le dimanche soir et voulait qu'on évacue. Par contre, bon, on est assez, comme je vous l'ai dit auparavant, on est plus ou moins préparé pour les inondations, donc on pensait qu'on pouvait ride this one out. I don't know comment
attendre que ça passe et rester chez vous, quoi.
Ouais. Voilà, on pouvait attendre que ça passe, et puis bon, comme c'est notre maison aussi, on voulait pas la quitter. On est comme des capitaines sur un bateau, quoi. Et donc ils sont venus, je crois, c'est-à-dire on s'est couché vers 10h30 le dimanche, et jusqu'à présent. À ce moment-là, il disait que l'eau allait monter peut-être à 11 mètres. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un barrage dans la ville de Lismore, qui est sur le côté de la rivière Wilsons. Et ce barrage, il fait 10 mètres 60. Et dès que l'eau passe ce niveau, donc ça commence à devenir dangereux. Mais par contre, à notre expérience de la dernière fois, de 2017, on savait que je crois que c'est vers 6 heures du matin, l'eau avait commencé à déborder le barrage, mais c'est pas avant 2 heures de l'après-midi que ça avait vraiment monté ici, tu vois. Vous voyez, donc je pensais qu'on avait assez de temps pour évacuer et puis se préparer un peu plus, quoi. Mais cette fois-ci, c'était très différent. Au cours de la nuit du dimanche, presque toutes les heures. Il y a eu des alertes, voilà. Et à chaque fois, ils augmentaient le niveau de la rivière d'un mètre d'un coup comme ça. Ça allait très, très vite. En plus, ça s'est passé au milieu de la nuit. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont été surpris, qui ont été se coucher. Il y en a qui sont couchés à la dernière alerte. Ils pensaient que ça allait, bon, si ça allait déborder, ça allait pas se passer avant le lendemain matin. Donc, ils pensaient qu'ils allaient avoir le temps. Et nous, en fin de compte, on a dormi pas tellement bien. C'était une tempête, en fin de compte. Le bruit de la tempête et de la pluie était tellement fort que ça nous a resté, on est resté réveillés. Et vers 4 heures du matin, on a regardé à la fenêtre et on a vu vraiment un torrent qui... là où on habite, en fin de compte, le quartier où on habite, ça s'appelle Gerard's Hill. Donc, c'est une colline et nous, on est plus ou moins en bas, presque en bas de la colline. Donc, on voyait l'eau déferler de la rue, de notre rue qui venait d'en haut, quoi. De plus, on avait des amis qui restaient ce week-end chez nous. Et ça me gênait un peu, mais il fallait que je les réveille pour leur dire de partir. Alors, j'ai finalement réveillé à 4 heures du matin et j'aurais dit, vite, allez chez les voisins un peu plus haut et prenez le chien avec vous. On a un petit chien et puis on vous rejoint. Alors, à ce moment, quand ils sont partis, le niveau de l'eau en bas de chez nous, c'était à peu près au niveau du genou. Et donc on est revenu, on a fait un petit sac avec nos papiers, des sous-vêtements, iPhone, iPad, et puis voilà, on est parti. On a éteint le courant aussi. Et le temps qu'on fasse ça, il s'est passé peut-être 15 minutes. Et là, quand on est descendu de la maison, en fin de compte, ma tête était sous l'eau. Alors le niveau de l'eau a monté tellement vite. Et il y avait déjà le voisin un peu plus haut qui criait notre nom et qui nous demandait de sortir vite, vite. Donc, c'était vraiment un moment incroyable. Et je crois que c'est un peu tatoué dans ma mémoire maintenant. Parce que, bon, quand je suis descendu, j'avais plus les pieds en bas. Je flottais. Et j'ai dû donc nager jusqu'à mon voisin qui me tendait la main pour que je l'attrape. Donc, c'est comme ça qu'on a évacué la maison. On n'a pas eu beaucoup de temps de réfléchir de ce qu'on faisait. Je pense que la panique nous a pris aussi. Mais on était sous le choc pendant peut-être une heure ou deux heures après ça, parce qu'on ne revenait pas de ce qui s'était passé, quoi.
On sait que malheureusement, à Lismore, il y a eu à nouveau des inondations il y a quelques jours. Comment ça s'est passé cette fois-ci pour vous? Est-ce que la situation était aussi grave ou un peu moins que la première fois?
Après la première inondation, la maison était vraiment chaotique. Et donc, on n'a pas pu réaménager pendant au moins 3 semaines. Et avec l'aide de beaucoup de voisins et d'amis qui sont venus nous aider à nettoyer la maison, on est arrivé à revenir dans la maison. On a commencé à camper dans une pièce. Et donc, ça faisait seulement quelques jours qu'on était revenu dans la maison et que là, il y avait la prochaine alerte. D'un côté, heureusement qu'on avait déjà, on avait déjà perdu beaucoup de choses. Donc le sous-sol en bas était presque vide déjà. Mais on pensait que ça allait pas être, ça allait être plutôt moyen comme inondation. Donc on a décidé encore de rester. Et en fin de compte, ça s'est passé sur 2 jours cette fois-ci parce qu'il y avait un phénomène qui s'appelle ça rain bomb. Et donc c'était arrivé le lundi. Mais après le lundi, ce phénomène était parti vers le sud. Donc, on pensait que ça allait mieux. Malheureusement, l'après-midi, ce phénomène est remonté de notre côté. Et là encore, toute la soirée, ça a commencé à pleuvoir et à pleuvoir. Et pour une deuxième fois, on a évacué encore à 4 heures du matin chez les mêmes voisins. Par contre, l'eau est montée très peu. Et il y avait peut-être seulement 60 cm dans le sous-sol. Donc, la maison n'a pas été vraiment endommagée, quoi. Et ça nous a pris seulement une journée pour nettoyer après ça.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, François, pour ce témoignage. Et puis, je vous souhaite beaucoup de courage à vous, à votre famille, mais aussi à tous vos voisins et vos amis à Lismore.
Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Et je voudrais rajouter que depuis qu'on est revenu dans la maison, on se sent beaucoup mieux maintenant. Pour nous, c'était important de revenir et de recréer... recréer des liens avec la maison et puis avec le quartier. Et on a l'intention de rester.
Ok, eh bien écoutez, je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite alors.
Merci Grégory, au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
d'émission, un rappel des grands titres de ce 12 avril, deuxième jour de la campagne électorale. Le Premier ministre et le chef de l'opposition sont sur le terrain avec des promesses de créer les emplois et les soutiens en matière de santé mentale. L'Australie enquête sur des rapports sur l'utilisation d'armes chimiques par la Russie contre l'Ukraine. Le Victoria annoncé comme organisateur des Jeux du Commonwealth de 2026. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est jeudi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Très belle fin d'après-midi. À très bientôt. Belle journée.
D'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.